D'abord voir la deuxième. Perek Sheni, dans la deuxième halakha, il avait écrit Bet. Vous avez trouvé? Que dit le Rambam? Umahi ha teshuva. Qu'est-ce que c'est que la teshuva? Génial, il aurait pu dire ça au début. On a passé plus d'un chapitre. Il parle de la teshuva sans donner sa définition. Maintenant, voyons un peu avant, dans la halakha Aleph. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans la halakha Aleph? Ezoï teshuva gemura. Qu'est-ce que c'est qu'une teshuva achevée? Moi, j'aurais écrit d'abord la deuxième halakha, et après la première. C'est-à-dire, j'aurais d'abord défini la teshuva. Et après, j'aurais ajouté un complément. Qu'est-ce que c'est qu'une teshuva achevée? Non seulement j'aurais fait comme ça, mais j'aurais mis ces deux indéfinitions dans le premier chapitre. Or, le Rambam, pour lui, c'est le monde à l'envers. Il nous parle de la teshuva sans la définir. Après, il nous dit qu'est-ce que c'est que la teshuva achevée. Et après, il se rappelle qu'il faut également définir la teshuva. Ça ne correspond pas au génie d'écriture du Rambam. Le Rambam était génial en tout, et donc il savait mettre les choses en ordre. S'il a fait comme ça, c'est pas pour rien, il y a une raison. Nous allons apprendre la raison. La raison, c'est qu'il y a des notions que l'on ne peut pas définir au départ. Ce sont des notions qu'on a besoin d'abord de rencontrer. Une fois qu'on a rencontré, alors on peut rétroactivement les définir. Par exemple, si je dis à quelqu'un qui n'a jamais été enrhumé, j'essaie de lui définir ce que c'est que le rhume. Je pourrais lui donner des définitions biologiques, médicales, très précises, mais en vérité, ça ne va rien dire pour lui. S'il a été enrhumé une fois dans sa vie, alors il sait ce que c'est que le rhume. Il n'a pas la définition, mais il sait ce que ça veut dire. D'accord? Le rhume n'est qu'un exemple. D'accord? Il y a encore beaucoup d'autres exemples qu'on peut amener. Il y a des choses plus profondes. Par exemple, le Shabbat. Si j'essaye de... Quelqu'un me dit, j'ai entendu parler du Shabbat, qu'est-ce que c'est? Alors je peux lui dire, c'est un jour où on ne fait rien. C'est la définition du Shabbat, c'est une définition négative. On n'a pas le droit de faire ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Est-ce que ça donnera un véritable entendement de ce que c'est que le Shabbat? Non. Il faut avoir fait un Shabbat dans sa vie pour que les définitions en question aient un sens. Allons plus haut, la définition de Dieu. Les philosophes nous ont appris qu'on ne peut pas définir Dieu de manière positive, on peut en parler de manière négative. C'est ce qu'on appelle les attributs négatifs. C'est-à-dire, le Rambam nous dit dans le Moré Nevouchim, plus tu sauras ce que Dieu n'est pas, plus tu seras proche de lui. D'accord? Alors, il en est de même de la Teshuvah. Plus une chose est importante, plus il est important d'abord de la rencontrer avant de la définir. Donc, le Rambam a raison, comme d'habitude, d'avoir défini la Teshuvah seulement dans le deuxième chapitre. Est-ce bien clair? Bon. Hein? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux donner une définition de Dieu? Si tu essaies de donner une définition de Dieu, c'est que tu es idolâtre. C'est-à-dire que tu as essayé d'inclure ce qui est au-delà de tout entendement dans des catégories de pensée humaine. D'accord? Ce qui fait que les discussions idiotes, savoir si Dieu existe ou pas, n'ont pas de sens. Parce que Dieu est au-delà de l'existence et de la non-existence. Ok? Bon. Ça, c'est pour le problème de la définition de la teshuva. Donc, ça explique également pourquoi est-ce que le Rambam nous parle d'abord de la teshuva achevée avant de donner la définition de la teshuva. Remarquez ici quel est le terme employé en hébreu. Ezoï teshuva Gemura, qu'est-ce que c'est qu'une teshuva achevée? On connaît un autre terme. Au lieu de Teshuvah Gemura, c'est quoi? Shelema. Teshuvah Shelema. On le dit d'ailleurs dans la prière. Achazirenu b'teshuvah Shelema lefanecha. Teshuvah Shelema, c'est une Teshuvah parfaite. Mais là, le Rambam ne parle pas de la Teshuvah parfaite, il parle de la Teshuvah achevée. Ce n'est donc pas la même chose. D'accord? Alors, pour savoir ce que c'est que la Teshuvah Gemura, je vais d'abord parler de ce dont le Rambam ne parle pas. La Teshuvah Shelema. Shelema. Shelema, ce qui veut dire parfaite. Là, pourquoi je parle d'un terme dont le Rambam n'a pas parlé? Parce que c'est un terme qui est ramené dans la prière. Dans la prière, nous disons Amen, ramène-nous dans une Teshuvah parfaite, Achazirenu b'teshuvah Shelema. Donc, je peux me permettre de vous expliquer que je sais que la Teshuvah Shelema. Oui, quoi?
Pourquoi le Rambam n'en parle pas?
Parce que ce n'est pas son sujet. La Teshuvah Shelema a un rapport. Le Rambam ne parlait ici que de la Teshuvah par rapport aux fautes, au péché. La Teshuvah Shelema n'a rien à voir dans sa profondeur avec la faute. Il y a un rapport quand même, mais ce n'est pas exactement la même chose.
Dans un de ses livres, il définit ce que c'est la Teshuvah Shelema?
Non. Il n'a pas tout fait, le Rambam. S'il avait tout fait, il n'y aurait pas de sens à ce que je donne un cours. Le Rambam, très sympa, a laissé des sujets sans explication pour que j'ai quelque chose à enseigner. D'accord? C'est tout. C'est sympa de sa part. Et donc, on y va. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je rencontre quelqu'un, je lui dis, ta sale tête ne me revient pas. Quel péché c'est? Ça contredit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas de peine à ton prochain, l'autre nous fait t'arrive. Il y a beaucoup de méchanceté dans ça, d'accord? On dit, ta sale tête ne me revient pas.
Il y a de l'honnêteté.
Hein?
Il y a de l'honnêteté en tout cas.
Il y a donné quoi?
Il y a de l'honnêteté.
Il y a de l'honnêteté, ça oui, sans aucun doute. Mais c'est pas sympa. Et bon, après à lui avoir dit ça, quelques semaines plus tard, je me dis, j'aurais pas dû lui dire ça. Il faut que je fasse tes chouvas. Pour faire tes chouvas, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, aller le réconcilier. Je lui dis, écoute, Georges, c'est dans la mesure où c'est son nom, j'aurais pas dû te dire ce que je t'ai dit, ta sale tête ne me revient pas, je regrette profondément, plus jamais je ne te dirai, ta sale tête ne me revient pas. Voilà. Il me dit, c'est pardonné. Et puis à part ça, je vais faire tes chouvas, je vais devant Kadosh Baruch Hu, je lui dis, tu sais, les bonos chez l'Olam, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Bon. Alors tout va bien, non? La Teshuvah est achevée? Non, parce qu'en vérité, je n'ai pas fait Teshuvah sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un élément qui manque dans cette histoire. Il est revenu à la maison, il était très déprimé de ce que je lui ai dit. Comme il est revenu, il avait véritablement une sale tête. Et sa femme lui dit, encore tu fais la tête? Lui, il était énervé, il a donné une baffe à sa femme. Elle s'est adressée au tribunal, qui l'a éloigné de la maison pendant 2 semaines. À cause de ça, il est allé ailleurs donc, et il a été allé plus loin que son travail habituel. Et donc, il est arrivé en retard au travail. Le patron lui dit, encore. Et donc, il est renvoyé. Il est renvoyé, et alors, dans ce cas, il tombe dans la nécessité, la délinquance, et finalement, il fait de la prison. Et il se noie dans la drogue et l'alcool, et le crime. Voilà. Tout ça, ça a commencé parce que je lui ai dit, ta sale tête ne me revient pas. D'accord? Maintenant, quand je fais teshuva, je fais teshuva seulement sur la première phase ou sur toutes les conséquences? Première phase, d'accord. Mais en vérité, mon action va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et donc, je ne suis pas capable, étant donné que je ne connais pas tous les mystères de la création et qu'est-ce qui influence quoi, je ne peux pas faire une teshuvah complète. Mais je peux faire la teshuvah dont je suis conscient. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de considérer notre teshuvah même superficielle, comme étant une teshuvah chez les mains. C'est pour ça que dans la prière on dit « Achazirenu b'teshuvah chez les mains », ramène-nous dans une teshuvah entière, « Lefanecha » devant toi. Parce que toi tu connais les secrets de la création. D'accord ? Ça c'est la teshuvah chez les mains, c'est la teshuvah qui répare toute l'action mauvaise, y compris toutes les conséquences. Maintenant, c'est vrai à tous les niveaux, pas au niveau du péché seulement. Quand je fais une teshuvah métaphysique, par exemple, je ne connais pas vraiment ce qui m'attire. D'accord ? Qu'est-ce qui crée mon languissement métaphysique ? D'accord ? Et donc, ma teshuvah ne peut jamais être une teshuvah chez les mains. C'est la raison pour laquelle le Rambam n'en parle pas. Maintenant, nous allons passer à la teshuvah la teshuvah Gemura. D'accord ? La teshuvah achevée. La teshuvah achevée, c'est un peu autre chose. C'est une teshuvah qui, disons, met un seau, S-C-E-A-U, un tampon, si vous voulez, à ma teshuvah. Je sais qu'elle est authentique. Elle donne un tampon d'authenticité, un cachet, disons, d'authenticité à ma teshuvah. C'est quoi ? Je vais vous donner un exemple. Zecheba Leado Davar chez Avarbo. Celui qui est amené à rencontrer une chose pour laquelle il avait péché. Vechar Leado La Soto. Et il est capable de le faire. Ou Ferash Velo Asam, il peine à Teshuvah. Et il s'en est abstenu, il n'a pas fait, à cause de sa Teshuvah. L'Omira Velo Mikishlon Koar. Pas par crainte, ni par manque de force. Ketsad. Alors, il va nous donner un exemple. Ketsad, comment ? Are Sheba Alisha Ba'avera. Disons qu'il a eu un rapport avec une femme de façon interdite. Ou Le Harzman, et après un certain temps, Nityached Imma, il s'est retrouvé isolé avec elle. Vehu Omed Be'ahavato Ba, et il a toujours le même amour pour elle, ou Vechoar Gufo, et la même force physique, ou Va Medina She'avar Ba, dans la même cité où il a transgressé, ou Ferash Velo Ava, et il s'est abstenu, il n'a pas transgressé. Zehu Ba'al Teshuva Gemura, c'est lui qui est qui possède une teshuvah achevée. Vous avez compris ? Bon. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une transformation de la volonté qui fait que maintenant nous savons qu'il ne se ment pas à lui-même. Souvent, on peut faire une teshuvah et on ne sait pas si elle est authentique ou pas. Étant donné que je n'ai pas eu la même occasion de faire ce que j'avais fait. Donc je ne peux pas savoir si c'est authentique ou pas. Mais maintenant que je suis dans la situation où je peux faire la transgression et je ne la fais pas, c'est là que nous savons que c'est authentique. Oui.
Qu'est-ce que ça change quand on
est au même endroit ? Ça crée les mêmes associations. Il y a ce qu'on appelle une pensée associative. Quand on se retrouve dans une situation qui ressemble à la première situation, on est plus porté à répéter. C'est psychologique. Oui, bon, mais ça fait partie de la psychologie. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai écrit ce texte, c'était pas moi qui a fait la psychologie humaine. Bon, Hu chez Shlomo Amar, c'est ça qu'a dit le roi Salomon quand il dit dans Kohelet, Usror et Borecha bimu bechorotecha, souviens-toi de ton Créateur dans le temps de ta jeunesse, Adasher lo yavu yemehara, avant que ne viennent les jours mauvais, Veigiu shani macher tomar eni baim chefetz. Et que n'arrivent les années où tu diras je n'ai plus de désir. Veim locha vela bimeziknudo. Et s'il n'a fait teshuva qu'au temps de sa vieillesse. Il fait teshuva, il est déjà vieux. Ou veek sheiv charlo la sot machaya ose. Dans un temps où il ne pourrait plus faire ce qu'il faisait. Afalpi sheena teshuva me'ulla. bien que ce n'est pas une teshuvah meilleure, Mo'el et Hilo, elle est quand même efficace. Ou Baal teshuvah ou, il est quand même faisant teshuvah. Afilo avar kol yama, et même s'il a transgressé pendant toute sa vie, Ve'asa teshuvah ve'yom mitato, et qu'il a fait teshuvah le jour de sa mort, ou met bitshuvato, et qu'il meurt après avoir fait teshuvah. Kol avonotav nimchadim, tous ses péchés sont pardonnés, chez Ne'emar. Ainsi qu'il est dit, c'est à nouveau dans Kohelet, Adasher loterchach hashemesh ve'ahor vayareh vakochavim, jusqu'à ce que ne se noircissent le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, ve'shavu he'avim mahar gashem, et que ne disparaissent les nuages après la pluie, shu yomamita. Tout ça est une métaphore du jour de la mort. Miklal shi'im zachar bor'o ve'shav kodem she'yamut nislach lo. De là, il ressort que s'il s'est souvenu de son Créateur et qu'il a fait teshuvah avant de mourir, ça lui est pardonné. Joli, non? Bon. Il y a eu des cas comme ça. On vient un cas moderne. Il y avait un Israélien, un auteur israélien, du nom de Dan Ben Amos. Vous avez entendu parler de lui? Non? La Fontaine, vous avez entendu parler? Alors, d'un juif, vous n'avez pas entendu parler, mais d'un juif, oui. Bon. Eh bien, Dan Ben Amos était un chansonnier israélien. Il a fait toutes les bêtises possibles dans sa vie. Il a d'ailleurs écrit un bon dictionnaire de l'argot israélien, ça vous intéresse. L'argot hébraïque. Mais enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. Il a une vie extrêmement dissipé et très peu exemplaire, disons. Son nom véritable, avant de s'appeler Ben Amos, son nom de famille c'était Tillingzuger. Tillingzuger. Ce qui veut dire celui qui récite les Tehillim, les psaumes. Tillingzuger. Il a changé son nom en Ben Amos. Mais, quand il était très malade et très proche de sa mort, comme il se rappelait qu'il s'appelait Tehillim Zuger, il a demandé qu'on lui lise le livre de Tehillim. Et vous vous rappelez comment ça commence, Tehillim? Asherei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim. Heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants. Ou derech ha'taim lo hamad, qui ne s'est pas tenu dans le chemin des pécheurs. Ou moshav letzim lo yashav, et qui ne s'est pas installé dans l'assemblée des moqueurs. Quand le lecteur est arrivé à la fin du verset, « Umoshav Betzim Loyashav », il a éclaté en sanglots. Donc il a fait sa teshuvah au dernier moment. Ça marche. D'accord? Il y a souvent des trucs comme ça. Ça me rappelle, il y a deux textes dans la Gemara qui racontent le contraire l'un de l'autre. Un texte dans le traité de Menachot et un autre dans le traité d'Avodah Zara, à propos de deux personnages qui ont fait teshuvah. Mais ce qui leur est arrivé, c'est exactement le contraire l'un de l'autre. Le premier, c'est Elazar ben Doradia. Vous avez entendu parler d'Elazar ben Doradia? Vous avez entendu parler? D'accord. Elazar ben Doradia. Elazar ben Doradia, ça veut dire Elazar le fils de Lali. D'accord? Bon. Et Elazar ben Doradia était un personnage pas extraordinaire. La Guémara dit qu'il n'y avait pas une seule prostituée dans le monde qu'il n'avait pas connue. Hein? Pas une seule qu'il n'avait pas connue. Pas très fort, tout ça. Bon. On raconte qu'un jour, une de ces prostituées lui a dit, il s'est passé dans le rapport qu'ils ont eu, il y a eu un disons, une émanation fétide de la part de cette prostituée, elle lui a dit, de même que cette mauvaise odeur ne disparaît pas, de même, toi et Lazare ben Doradia, tu ne seras jamais accepté dans ta teshuvah. Voilà. Ça a été terrible pour lui, il a compris qu'elle avait raison. Alors il est allé entre deux collines. Il a dit, « Ô colline, demandez la miséricorde pour moi. » Et les collines lui ont répondu, « Nous ne pouvons pas prier pour toi, parce que nous devons prier pour nous-mêmes, puisqu'il y a un verset qui dit qu'un jour les collines disparaîtront. » Alors, bien embêté, alors il s'adresse au soleil et à la lune. Et il dit, « Soleil et lune, priez pour moi. » Et le soleil et la lune lui disent, « On ne peut pas prier pour toi parce que viendra un jour où le soleil s'éteindra et la lune sera noircie. » Et donc, on est occupé à nos problèmes. Alors, très embêté, il s'adresse aux étoiles. Et les étoiles lui disent, « Non, on ne peut pas non plus parce qu'il est dit, « Venamaku kolseva hashamayim, un jour viendra où toute l'armée du ciel sera détériorée. » Alors, qu'est-ce qu'il fait, Lazar ben Doradia? Il se dit, la chose ne dépend plus que de moi. Il met sa tête entre ses genoux et fond en larmes. Et son âme le quitte et il meurt. Et à ce moment-là, une voix céleste se fait entendre dans laquelle on dit, la voix céleste dit, Rabbi Elazar ben Doradia est invité au Olam Haba. Histoire incroyable. Rabbi Yehuda Hanassi entend cette histoire et il se met à pleurer lui aussi. Il dit, il y en a qui pour acquérir leur monde à venir passent une vie entière. Et il y en a qui le font en un instant. Et en plus, on les appelle Rabbi. Lui aussi, Rabbi Yehuda Hanassi s'appelait Rabbi. D'accord ? Il est jaloux. Et Lazare de Tordier. Ça, c'est la première histoire. Jolie, non? C'est dans le traité d'Avodah Zara. Autre histoire, dans le traité de Menachot. On raconte une histoire à propos d'un homme qui était assez riche et qui avait une mitzvah à laquelle il tenait beaucoup, le tzitzit. Le tzitzit, pour lui, c'était un truc très important. Un jour, il entend dire qu'il y a une prostituée qui coûte très très cher à Rome. Et il prend rendez-vous, enfin, je vous passerai tous les détails, les détails sont intéressants, mais on veut aller plus vite. Et finalement, au moment où il prend le bateau, il va se rendre à Rome, ça lui coûte extrêmement cher, il y a d'ailleurs une secrétaire, on ne rentre pas comme ça, etc. Et elle avait préparé 7 lits en argent, et au-dessus de ces 7 lits, un lit en or. Et au moment de pêcher, son tzitzit s'est retourné sur son visage. Parce qu'il était, vous rappelez, le tzitzit était important pour lui. Alors, il renonce à pêcher, il descend, et la prostituée lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tu sais, nous avons une mitzvah dans la Torah, et j'ai vu les 4 tzitziot, ils m'ont semblé comme 4 témoins qui allaient témoigner contre moi, et donc je ne fais rien. Elle dit, d'accord, mais tu ne pars pas d'ici avant de me donner ton adresse et l'adresse du maître qui t'a enseigné la Torah, et après tu veux partir. Donc ça veut dire que c'était un élève de Yeshiva. Et, une fois cette histoire faite, la prostituée en question vend tous ses biens. Un tiers, elle donne à l'Empire romain. Un tiers, elle donne aux pauvres. Et un tiers, elle prend avec elle et elle se rend au Beit HaMidrash en question, chez Rabbi Chiya. Donc c'est un élève de Rabbi Chiya. Que veut dire Chiya?
La vie.
Vous allez voir, c'est important. Et elle vient le voir, elle va voir le Rosh Yeshiva, c'est une femme très belle, et elle dit, Rabbi, je voudrais me convertir au judaïsme. Rabbi Chiya dit, il y a une histoire là, avec un des élèves peut-être. Et Rabbi Chiya connaît ses élèves, il se dit, tiens, c'est peut-être lié à ça. Il dit, oui, c'est vrai, c'est lui. J'étais très impressionné par sa teshuva, etc. Rabbi Ria l'a converti au judaïsme et marie cette femme avec l'élève et lui donne toute sa richesse. Ça veut donc dire que en faisant donc le premier cas de Rabbi Ria, d'Azar ben Doradia, il a fait teshuva, mais quel était le prix à payer ?
La mort.
Tandis que dans le deuxième cas, il a fait Yeshuva, et c'était quoi sa récompense? Il a reçu ce qu'il voulait. D'accord? Et la Gemara dit, et ça c'est encore que dans l'Olam Hazé, et l'Olam Haba encore plus. Alors c'est assez injuste la différence quand on voit les deux formes de Yeshuva. L'un doit mourir, l'autre doit vivre. Rabbi Ria. Alors, il y en a un qui a fauté, l'autre qui n'a pas fauté. C'est vrai. Mais les deux ont fait Yeshuva. Mais il y a plus que ça. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a amené le deuxième cas, l'élève de Rabbi Ria, à faire teshuva? La mitzvah qu'il faisait. Donc il y avait chez lui encore quelque chose de pur dans sa vie, auquel il pouvait se rattacher. Tandis que chez Rabbi Elazar ben Doradia, toute sa vie était mauvaise. Donc il n'avait pas à quoi se rattacher, sauf au moment où il était encore un fœtus, avant sa naissance. Or, la position qu'il prend de mettre sa tête entre ses genoux pour pleurer, c'est la position fœtale. Donc, il revient à son origine. Donc, la teshuva, dans des cas extrêmes, peut demander la mort. Dans la plupart des cas, non. Il suffit de se rattacher au point de pureté qui reste en soi, et on peut faire teshuva. D'accord? Tout ça, c'était autour du problème de la teshuva Gemura. Oui.
Ça veut dire que si demain il y a un rachat qui fait une seule bonne action, ça peut le sauver
dans une... Oui, parfaitement. C'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav dit que quand on examine ses actions, on dit voilà, bah, le mois des Louls, on s'approche de Kippour, etc., on doit examiner ses actions, faire le bilan. En général, c'est extrêmement déprimant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire la liste des mauvaises choses qu'il y a en moi. Et en général, on s'arrête après un quart. Incapable, c'est tellement déprimant de savoir ce qui n'est pas bon en moi, je ne peux pas continuer. Alors, Rabbi Nachman de Breslav dit, il faut faire le contraire. Il faut chercher en soi ce qui est encore pur. Une fois qu'on a trouvé en soi ce qui est encore pur, alors déjà, ça nous élève au-dessus du péché, et alors on est capable de découvrir encore d'autres éléments purs, ce qu'il appelle Nekuda Tova, un bon point. Et plus il y aura de bons points, plus on pourra en faire une mélodie musicale. Parce que chaque point est comme une note, et ça va donner donc un nouveau chant auquel on ne pouvait pas penser au départ. D'accord ? Bon, on continue. À ce propos, ça me rappelle, il y a une histoire sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Un des grands maîtres du chassidisme. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était dans la rue. Il y avait là-bas un juif dont le métier était de faire des réparations. D'ailleurs, vous avez un meuble cassé, il le répare, vous avez des choses à réparer, quoi. Un réparateur. Alors, il rencontre Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et dit « Est-ce que tu as quelque chose à réparer ?» Alors, Rabbi Levi Yitzhak se met à pleurer. Parce qu'il y avait beaucoup à réparer. Bon. En tout cas, donc, je continue ici dans... On a fini la première halakha du deuxième chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
La deuxième.
Bon. « Ou Mari a teshuva. » Qu'est-ce que c'est que la teshuva ? Ou Sheyazov achoter et o, visiro mi marchavto, veigmor belibo shelo yaasehu od. C'est-à-dire que le pécheur abandonne son péché et cesse de projeter de le faire. Et il décide dans son cœur de ne plus le faire. Remarquez ici le mot marchavto. En hébreu, c'est trompeur, parce qu'en hébreu moderne, le mot machashava veut dire
penser.
Mais chez le Rambam, le mot machashava ne veut pas dire la pensée. Comment ? Il veut dire le projet. Par exemple, le projet de Haman, dans le Midrash Esther, Machashavot Haman. Rabot Machashavot Belevish, nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, Ratzat Hashem Itakum, et le projet de Dieu, c'est ça qui va se passer. D'accord ? Donc ça veut dire que, ça veut dire non pas qu'il faut oublier le péché, ou ne pas y penser, il faut simplement décider de ne plus le faire. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yazov Racha Darpo, le méchant doit abandonner son chemin, Vegomer, ça veut dire quoi Vegomer ? Ça veut dire etc. Ça veut dire que s'il faut lire la suite du verset, c'est quoi la suite du verset ? Yazov Racha Darpo, Veish Aven Marchevotav, et l'homme de mal ses projets. Sinon on ne comprend pas où est-ce que le Rambam a trouvé à chercher ça. Oui. Hein ?
Vous pouvez répéter la définition.
De quoi ? Teshuvah, on est au milieu de la définition. C'est-à-dire, toute la deuxième halakha, c'est une longue définition de la Teshuvah. Elle est composée de trois éléments. Le premier concerne le futur. C'est-à-dire la décision de ne plus faire le péché. Oui ?
La suite du verset, Yazov Vachadarko.
Veish Aven. Marché votable. Mais si on lit dans la Haftara de Shabbat Shuva, bon, Vechen, et il faut aussi, Yitnahem al-She'avar, regretter d'avoir transgressé. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ki achare shuvi nihamti, car après mon retour, je regrette. Ça veut dire qu'on commence par le futur et on continue par le passé. C'est-à-dire à la route. Je crois, qu'est-ce qui vient avant le futur ? Le passé, je crois. Donc le Rambam devrait nous dire, il faut d'abord regretter ce qu'on a fait et après décider de ne plus le faire. Le Rambam dit le contraire. Il faut d'abord décider de ne plus faire et après regretter le passé. Pourquoi ? Pour la même raison de Rabbi Nachman de Breslav de tout à l'heure. Si je pense toujours au mal que j'ai fait, alors ça me décourage. Ça veut dire j'ai une mauvaise opinion de moi-même. Je me dis, je suis un sale type, je fais le mal. Mais le futur, rien ne m'oblige à faire le mal dans le futur. Donc il faut d'abord que j'arrive à me prouver à moi-même que je suis capable de chercher, de faire le bien. Et alors, à partir de ce moment-là, le regret du passé devient beaucoup plus facile. D'accord ? Il y a à nouveau également une phrase superbe de Rabbi Nachman de Breslav. « Ma shehaya haya, haikar leatrim meatrala. » Ce qui a été, et l'essentiel est de commencer à partir de maintenant. Quoi ?
Mais c'est compliqué de regretter. De décider de plus recommencer et ensuite de regretter, parce qu'en général, c'est parce qu'on regrette qu'on décide de plus refaire. Si j'ai fait une faute et que je quitte la faute, je
ne
peux pas rentrer
de la faire. Non, justement. Tandis que si, pourquoi ? Parce que la faute est faite de telle manière qu'elle te convainc que tu n'as pas le choix. Mais à partir du moment où j'ai réussi à décider que dans l'avenir, je ne le ferai pas, alors ça me donne, je découvre en moi des forces que je ne connaissais pas. Et donc, il est plus facile de regretter le passé. Oui ?
C'est pas ça, les
trois étapes. Pour l'instant, on en a vu que deux.
Oui, mais c'est en mode... Je ne sais pas les sorties. Ce que j'ai vu récemment, c'est d'abord, c'est, je regrette, j'avoue, et ensuite, je...
Eh ben non. Ah, voilà. Le Rambam ne pense pas comme ce que tu as vu.
Mais tu n'as pas la source ?
Oui, je sais bien. Il y a des livres. Mais le Rambam, c'est pas n'importe qui. Balèze, vraiment. Oui ?
Ouais.
Bon. Donc, si on dit ici, et il rajoute en plus, Viaïd alav, yodé ata alumos, shelo yashu leze achet leolam. il doit faire témoigner celui qui connaît les mystères qu'il ne reviendra plus jamais à ce péché. Chez Néhémar, ainsi qu'il est dit, « Velo nomar od Eloheinu le maase yadenu » Nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains « Tu es notre Dieu », etc. Donc la deuxième partie de la Teshuvah concerne le passé. Donc si j'ai une partie de la Teshuvah qui concerne le futur, et la deuxième qui concerne le passé, et qu'il y a trois éléments de la Teshuvah, donc qu'est-ce qu'il faut encore ? Le présent. Je suis très impressionné par votre capacité d'analyse. Et là, c'est « Vetsarich leidvadot bisratav » Il doit avouer par ses lèvres « Velomar » et dire « Inyanot ellu shegamar belibo » ces choses qu'il a décidées en son cœur. Donc, il y a également le vidouille. Pourquoi le vidouille dans le présent ? Le vidouille, ça veut dire la certitude. Donc, certitude. Oui, il y a un mot pour dire, en hébreu, la certitude, c'est vadaï. Ça veut dire quoi, vadaï ?
C'est évident.
C'est sûr. Vadaï, c'est sûr. C'est certain que c'est comme ça. D'accord ? Donc le vidouille, qui est l'aveu, permet également d'arriver à la certitude. Parce que quand je dis quelque chose, ça veut dire que j'ai fait un choix entre mes différentes pensées. Je ne sais pas exactement ce que je pense. Est-ce que je pense A, B, C ou D ? Mais quand je dis, alors ça canalise ma volonté dans une des directions. C'est pour ça que le vidouille est très important. Il est ce qui scelle finalement la Teshuvah. Donc vous avez, lors de la Teshuvah, c'est futur, passé, présent. Oui ? Bon. On a expliqué, quand on avait commencé l'étude du Teshuvah, pourquoi est-ce que le vidouille est important ? Rappelez, on avait étudié tout ce texte, l'Itvadot, Iknael Baruchou. Comme tout cela a été bien entendu par les élèves, c'est pas la peine de répéter. Et même les élèves qui n'étaient pas à ce cours ont certainement cherché soit des enregistrements, soit des résumés écrits du cours. Guimel. Oui. Oui. C'est pas spontané, c'est quelque chose d'inné dans l'homme. Oui.
C'est des choses qui est dans l'homme. Moi, on a comme un mode d'emploi, des sentiments qu'on va ressentir lorsqu'on fait tout ça. Et si du coup, c'est pas quelque chose. Enfin, si on donne un mode d'emploi, c'est pas quelque chose d'inné. Et comment elle ressent alors cette question ?
Le mode d'emploi, c'est pour la Teshuvah des pécheurs. La Teshuvah naturelle, une Teshuvah qui n'implique pas le péché. Le péché complique l'existence. Je suis embrouillé. Et donc j'ai besoin d'un mode d'emploi pour en sortir. Guimel. Pourquoi Guimel ? Parce qu'on a déjà fait Aleph et Bet. Donc on va continuer sur Guimel.
Vadaï.
Très bien. J'apprécie. Là, c'est un point de détail sur le vidouille, mais important. Kol amitvadé bidvarim, velo gamar bilibo lazov. Tous ceux qui feraient l'aveu par leurs paroles, sans avoir décidé dans leur cœur d'abandonner la faute. C'est parfois dans certaines synagogues, j'ai pu voir, je sais que c'est très rare, des gens qui font le vidouille sans avoir véritablement l'intention d'abandonner la faute. D'accord ? Je sais que c'est, en général, c'est pas le cas, mais ça peut arriver. D'accord ? Rav Ovadia Yosef disait, quand on frappe sur son cœur pour le vidouille, c'est comme un sac qui est rempli, sur lequel on frappe pour qu'il y ait plus de place. C'est-à-dire, on est plein de péchés, on frappe pour qu'il y ait de la place pour en faire d'autres. D'accord ? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une vanne du Rav Ovadia Yosef. D'accord ? Bon. Donc, « Kolamitvadeh vidvarim », tout celui qui fait le vidouille par les paroles, « Velo gamar bilibo lazov » mais n'a pas pris la décision en son cœur d'abandonner, « Areze domé le tovel vesheretz beado » cela ressemble à quelqu'un qui s'immerge avec un reptile dans sa main. il y a des reptiles dont le cadavre nous rend impur. Pour se purifier du contact avec le reptile, il faut entrer au mikvé, donc s'immerger dans l'eau. Mais quelqu'un qui s'immerge en tenant en main le reptile qui le rend impur. Et cette immersion n'est pas efficace tant qu'il n'a pas abandonné, tant qu'il n'a pas rejeté le reptile. Vechen Omer, et de même il est dit, Umode Ve'onzev Yeruham, c'est celui qui avoue et qui abandonne qui est pris en miséricorde. Donc, il faut d'abord se débarrasser du péché, et alors le bidouille a un sens. Sinon, ça ne sert à rien. Vraiment à rien? Non, ça peut être un début de teshuva. On peut, disons, faire, disons, un soupir. Ah, j'aimerais tellement ne pas pécher. C'est pas encore une teshuva, mais c'est un début. Oui.
Ceux qui disent à qui pour le bidouille, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la kavana, mais ils le lisent et.
Pourquoi ils ne comprennent pas le français?
Non, c'est en hébreu.
Oui, mais c'est souvent si quelqu'un ne comprend pas, il a une traduction en français, à moins que sa langue naturelle ne soit le hollandais. Alors il faut chercher un marzor traduit en hollandais.
D'accord. S'il n'a pas la kavana.
Pourquoi? Il a lu en français et il n'a pas la kavana.
Non, c'est pas grave.
C'est pas grave du tout, je pense que c'est très clair ce que je t'ai dit. Oui.
C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui fait pas chamar kashrut, et là, en son cœur, il dit, bon, maintenant, je vais essayer d'être chamar kashrut. Maintenant, ni faire un bidou, ni avouer la faute, ni... Oui. Enfin, juste comme ça, il décide de manger
kashrut maintenant.
Est-ce que c'est une
teshuva? C'est une demi-teshuva. Une
teshuva
sans bidou.
Ok, mais avoir le bidou, qu'est-ce qu'il demande?
Eh bien, il faut décider de ne plus manger taref. D'accord? Oui.
C'est un peu extrême, le cas du muet.
Le muet. Comment est-ce qu'un muet fait le vidouille? Ah bah, la manière des muets.
D'accord. Il ne
veut pas le dire.
Il varie.
Oui, mais la parole d'un muet, ce n'est pas une parole par la bouche.
Ah, il fait un muet des signes?
Peut-être, oui. Peut-être. Jamais un muet ne m'a posé la question, en tout cas pas oralement. Oui.
Quelqu'un qui fait des doutes, enfin qui est bien en hébreu mais qui ne comprend pas ce qu'il dit et qui n'est pas à la traduction,
ça vaut. Ça vaut d'abord, non, c'est d'abord c'est un exercice de récitation et de participation à la tradition juive. Ce qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup de synagogues dans lesquelles il y a des gens qui font la prière, c'est, ils lisent tout le livre et certains d'entre eux font également la prière. D'accord? Mais prier, c'est effectivement une mitzvah qui passe par une intention. Si je n'ai pas l'intention, je suis un réciteur de textes hébraïques. Ce qui est en soi une bonne chose. D'accord? Oui. Quoi? D'ailleurs, il y a parfois des textes qu'il vaut mieux que les gens ne comprennent pas. Par exemple, à Hanouka, vous connaissez la merveilleuse chanson Ma'o Sur Yeshuati. La plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Par exemple, le'et achil matbeach mitzar amnabeach. Ça veut dire quoi? Lorsque tu prépareras le massacre de l'ennemi aboyant. Le'et achil matbeach, lorsque tu prépareras le massacre, mitzar amnabeach, de l'ennemi qui aboie. D'accord? La plupart des gens ne savent pas que c'est ça qu'ils chantent. Bon, peut-être que c'est mieux qu'ils ne le savent pas, parce que par excès de libéralisme, ils vont dire « Ah non, ça se fait pas, c'est l'humanisme. Ah. » Bon. « Vetsarir, l'ifrot et achet. » Il faut également détailler le péché. C'est-à-dire pas simplement dire « Voilà, j'ai mangé pas kasher. » Il faut dire, j'ai mangé du saucisson, du fromage, du boursin, c'est divin, etc. D'accord? Il faut faire une liste Et voilà, donc, on détaille le péché. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, « Anna hataha amaze, de grâce, ce peuple a péché, hataha gedola, un grand péché. Vayasu lahem elohe zahav, ils se sont fait des dieux d'or. » Qui c'est qui dit ça? C'est Moshe. Au moment où il est délégué par le peuple pour demander la teshuvah. C'est un peu comme un Kohen Gadol qui fait le bidouille pour tout le monde. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je voudrais te dire qu'ils ont fait le veau d'or. Réponse à Kadosh Baruch Hu, je le savais très bien, c'est moi qui te l'ai dit. D'accord? Ça veut donc dire que ça fait partie de la stratégie du bidouille. Il faut donner le détail du péché. Plus on rentre dans le détail, plus on est capable d'extirper ça de soi. C'est d'ailleurs ce que disent les psychologues. Il faut extérioriser le traumatisme, etc. D'accord ? Par exemple, si quelqu'un a eu un accident de voiture et son traumatisme fait qu'il ne veut plus prendre le volant, que lui disent les psychologues ? Il faut que tu prennes le volant, ça va te permettre de sortir du trauma. Tizi.
Oui ? Étant donné qu'on fait partie d'une unité,
ouais.
Est-ce que quand je fais à l'échelle individuelle une faute, je peux dire... C'est pas
Oui, nous faisons. Oui, c'est au pluriel toujours. Le bidouille est au pluriel.
Je sais, mais est-ce que je dois avoir la kavana que c'est l'ensemble qui a fauté ou que c'est moi, l'échelle individuelle, qui a fauté?
Les deux sont bons. Bon. Dalet. Allez, on continue. Dalet. La halakha en question, Dalet, est dangereuse. Une halakha dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être appliquée. Appliquée. Or, cette halakha n'est pas une halakha à appliquer, c'est une halakha qui explique. Je vous explique de quoi il s'agit. Il y a des phénomènes, quand quelqu'un fait teshuva, des phénomènes qui ont l'air bizarres. Par exemple, celui qui fait teshuva, il est renfermé sur lui-même. Alors, moi je veux faire teshuva, qu'est-ce que je fais? Je me renferme sur moi-même. Non! Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est renfermé sur lui-même parce qu'il fait teshuva, ne t'étonne pas. D'accord? Il y a plusieurs comportements bizarres du Baal teshuva. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plusieurs... C'est incroyable. Bon, il y a plusieurs comportements bizarres du Baal teshuva que le Rambam va nous donner comme description. C'est normal, ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est à imiter forcément. Midrash Teshuva, parmi les comportements de la Teshuva. Liot Hashav, Soek Tamid Difne Hashem, Bifri Uftachanuni. Celui qui fait Teshuva crie toujours devant Dieu en pleurant et en suppliant. Ah, c'est le premier point. Veose Tzedaka Kefi Kocho. Il fait de la charité selon ses capacités. Quel est le rapport? Si quelqu'un a volé, il donne de la tzedaka, je comprends. Mais si quelqu'un a mangé du cochon, pourquoi est-ce que quand il fait teshuva, il devrait faire de la tzedaka? Quel est le rapport? Ça, bon, ça c'est un slogan, ça, je veux bien. Mais quel est le rationnel de ce slogan? Pourquoi est-ce que si je fais un péché, je suis porté naturellement, quand je fais teshuva, à donner la tzedaka. La chose la plus immédiate, c'est tout. Simplement, la teshuva, le péché, pardon, fondamentalement, tout péché est une sorte d'égoïsme. C'est-à-dire, je pense à moi et pas à mon devoir. Donc, quand je fais teshuva, je pense à l'autre. C'est quoi? Penser à l'autre, c'est lui donner la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka est l'inverse du péché. Donc si je fais teshuva, je fais la tzedaka. Oui?
Comment on
doit
faire teshuva, c'est penser à l'autre?
Non. Péché, c'est penser à soi. D'accord? On ne tient pas compte du mal que l'on fait à l'autre. Et on ne pense pas à son devoir. Donc, à partir du moment où je cesse de vouloir le péché, ça veut dire que je ne pense plus à moi, je pense à l'autre. C'est l'équilibre dans le sens inverse.
C'est clair.
Bon. Umidrachek arbe minadavar shechatabo. Il s'éloigne beaucoup de la chose dans laquelle il a péché. Alors ça, par exemple, on voit parfois chez les Baalei Teshuva une insistance énorme sur les problèmes de tzniout. Vous allez dans le mariage d'un Baal Teshuva, alors vous voyez qu'entre les hommes et les femmes, il y a un mur avec des tessons de verre et des barbelés, d'accord ? Et des mitraillettes si c'est vraiment nécessaire. Et bon, c'est comme ça. Bon, maintenant, est-ce que la halakha exige cette chose-là ? La réponse, c'est non. Mais il y a des cas où celui qui a une vie très difficile de ce côté de la permissivité, alors il est plus sensible que les autres. Une fois, un élève du Mahon Meir m'a dit « Je t'invite à mon mariage, je sais que tu ne vas pas aimer ça, mais il faut que tu me comprennes. Il y aura là-bas deux salles, mais essaye de comprendre. Toute ma famille est d'Elat. De la ville de Elat. Elat. Toute la famille vient d'Elat, et donc, je n'ai pas le choix. Tu dis, tu as raison. J'ai accepté. D'accord ? Bon. Alors, c'est ici le Rambam. « Mitrachet tarbe minadavar shechatavo » Il s'éloigne beaucoup de la chose dans laquelle il a péché. Umshaneshmo, il change son nom. Jusqu'à présent, il s'appelait Georges, maintenant il va s'appeler Albert. C'est un exemple, hein, tant d'autres. Il change son nom. Cloma, comme s'il voulait dire, Ani Acher, je suis un autre. Veini oto aish asa ota maasim. Je ne suis plus cet homme qui a fait ces choses-là. Ce qui n'est pas vrai, il est le même. Mais au niveau psychologique, il ressent le besoin de changer de nom. Oui ?
En changeant de nom, on ne change pas d'essence en quelque sorte ?
On change d'identité, pas d'essence. Maintenant, j'ai connu un cas. Oui ?
Il y en a qui sont passés par rapport à juste le fait que quelqu'un.
Oui, ça veut dire qu'il a changé son essence. Il a changé son identité. Il y a différentes couches. Il y a d'ailleurs, j'ai connu un cas de quelqu'un qui a tué par inadvertance. C'était pas de sa faute, mais il a voulu quand même corriger ça. Alors il a changé son nom. Il a été habité ailleurs. D'accord ? C'est le cas dont parle le Rambam. Ça arrive. D'accord. Maintenant, on devrait continuer le texte, mais c'est la fin du cours. Donc on s'arrête là. Shalom.
Nikraim banim.